Tailler la route, prendre le large, voir du pays, il y a plein de façons de le dire, partir. Partir, mais pas pour fuir, non, non, partir qui rime avec découvrir et se faire plaisir. Partir en voyage. On dit souvent que le voyage nous forme, mais c'est encore plus magique que ça, il nous transforme. Et quel âge plus rock'n'roll pour tenter l'aventure que l'adolescence?
Le monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Mido.
Voyager pour grandir, ce n'était pas le sujet du bac cette année, c'est notre thème aujourd'hui dans Le Monde est à nous. Bonjour à tous et bonjour Alice.
Bonjour Cerise.
Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes entre 15 et 25 ans nous embarquent dans le tourbillon de leur vie. Alice, t'es prête? Sac à dos, chaussures, cartes, barres au chocolat?
C'est tout bon pour moi.
Tant mieux, alors on part tout de suite faire un bout de chemin initiatique ensemble avec Romain et Clémence et vous ne serez pas déçus du voyage. Elle a 23 ans et l'an dernier, sa découverte de l'Irlande du Nord a été une révélation. Ce sont ses mots à elle. C'est notre invitée du jour. Bonjour Clémence.
Et bonjour.
C'est un peu la fête aujourd'hui. Il y a de l'anniversaire dans l'air, n'est-ce pas Alice?
Et oui, car si Clémence a pu voyager, c'est grâce au programme Erasmus qui célèbre ses 30 ans cette année. Erasmus, je vous rappelle, c'est un réseau d'échange qui est né en 1987, deux ans en fait avant la chute du mur de Berlin, et qui a pour objectif que des jeunes étudiants européens se rencontrent et se rapprochent. Et Clémence, qui vit à Orléans, est justement l'une des 9 millions de jeunes qui ont vécu l'aventure Erasmus. Sur ses photos de voyage, elle est rarement sans sa doudoune, mais toujours un sourire extra large sur le visage, puisque c'est à Derry, en Irlande du Nord, qu'elle a posé ses bagages pendant 3 mois, l'année dernière, en mode immersion totale. Et 3 mois, c'est aussi la durée du voyage de Romain Cerise.
Exactement, mais chaque périple est unique. Lui, Romain, 18 ans, a quitté son village de Bain-de-Bretagne, près de Rennes, pour se confronter au défi du mythique chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, route historique des pèlerins chrétiens qui relie la France à l'Espagne.
Oh non, je suis pas un mec de cartes. L'Espagne, la frontière. Mais Roncevaux, mais c'est pas possible. Il est censé se trouver vraiment juste de l'autre côté, hein. Roncevalles.
Ah ! Donc t'es parti de là ?
Oui, on est allé jusqu'à Pamplune, où ils font la corrida. Très belle ville avec des magnifiques fortifications. Puis on a continué vers Longrogno, et je crois que ça c'est une ville très, très commerçante, pas belle. Donc après on a continué. Burgos, León. Burgos magnifique, avec une cathédrale vraiment magnifique. León aussi. Astorga, une ville dans les montagnes. Le palais de Gaudi. On dirait vraiment le palais de Disneyland, c'est impressionnant. Et ensuite, il y a eu Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je me souviens, entre León et Astorga, il y a eu un désert impossible de trouver quelconque âme qui vive, parce que c'est vraiment une partie de l'Espagne qui a pris vraiment cher au niveau de... Enfin, ils ont une crise économique. Enfin, je crois que c'était en 2008, avec nous aussi. Et en gros... des maisons magnifiques, enfin des villages carrément entiers de maisons magnifiques qui ont été abandonnés parce que les personnes ne pouvaient plus les payer. Donc on s'est retrouvé des fois un peu au beau milieu de nulle part. Heureusement qu'on avait un peu de consommation, enfin à manger et notre réchaud pour pouvoir se faire quoi. Sinon on aurait été un peu dans l'embarras.
Parce que sinon vous dormiez, vous mangiez où?
Dans des gîtes, pas cher. Ça nous est arrivé une fois, je crois, de dormir à la rue. De toute façon, on s'était fait recaler à Santiago. Trop impatient de visiter tout, on n'avait pas assuré le logement. On a dû dormir dehors pour pas payer un hôtel 4 étoiles. Un peu dur, mais c'était sympa. C'était à vivre une fois.
Tu avais déjà voyagé à l'étranger ?
Jamais, c'était vraiment mon premier voyage. La mer, ça je m'en souviens très bien. Les vagues qui se jetaient contre les récifs, avec l'écume qui... Tout était lisse, tout était propre. Ça m'a fait un bol d'air. C'était vraiment ressourçant. C'était toute l'énergie de la nature comme ça. C'est impressionnant. Les paysages, quand on s'est pris des grosses, grosses averses en Galice, donc du côté de Santiago, les averses, c'était vraiment des seaux d'eau qu'on nous lançait sur la tête. C'était impressionnant. C'était en continu durant 7 heures. Je me rappelle une fois, enfin, on avait fait 12 km, je crois. On s'arrête, on voit à midi, on voit pile à midi et demi, 13h, un gigantesque bar sur le bord de la route. Mais un truc, un hôtel, 4 étoiles sûrement, un truc magnifique. Et nous, on était trempés jusqu'à l'os. On dégoulinait de partout, mais vraiment de partout, c'est impressionnant. Et on rentre comme ça, normal, pour deux cafés. Et vraiment, c'était, on a souillé tout, parce qu'on, où qu'on se déplaçait, on laissait une grosse traînée, limite une flaque d'eau. Oh non, excellent. On est monté à 1400 mètres d'altitude, de la neige et tout ça. Du coup, au départ, on a commencé la journée, on était trempés, puis on est monté. Du coup, on a eu très froid, donc nos pieds, ils ont congelé et tout ça. Moi, en plus, j'avais plus de chaussures parce que j'avais piqué une crise. Du coup, mes chaussures, je les avais balancées dans un cimetière. Parce qu'au départ, je voulais les mettre dans la poubelle et tout. Et mon gars, il m'a dit, non, tu fais pas ça. Si t'as pas envie de mettre tes chaussures, tu les gardes. Je fais, ok, je les ai jetées. J'ai fini avec des chaussures Nike, du running. C'est sympa pour courir sur du bitume. Là, on passait des montagnes et tout, avec des gros cailloux, enfin, sur tout un long de falaise, avec des chaussures aussi fines et en tissu, avec 17 kilos sur le dos. Mes chaussures, elles étaient mortes. Elles ont fait 1000 ou 1200 km, mes chaussures. Impressionnant. Bon, à la fin, elles commençaient à être trouées un peu de tous les côtés, mais elles ont tenu, elles ont tenu.
Et c'était quoi cette crise?
J'ai oublié des chaussures aussi chères que mon collègue. Je sais pas.
C'était ça?
Oui, des grosses chaussures à 170 € qui tiennent. J'avais pas eu de la marque, donc je me sentais pas un peu enfantin. J'étais fou. J'ai laissé mon collègue partir tout seul devant. Je me suis barré, moi je suis retourné à la ville, je suis allé voir la gendarmerie. Et puis je parlais pas beaucoup espagnol. Oh là là, pour dire que ouais, je m'étais fait abandonner. Je m'étais fait abandonner par mon éducateur, il était parti devant et du coup, je voulais savoir s'il pouvait m'emmener carrément.
D'ailleurs, pendant la marche, vous n'aviez pas droit au téléphone?
Non, du tout. C'est l'un des points qui sont à respecter. Le fait de ne pas pouvoir utiliser, enfin, de ramener de musique ou de téléphone qui peut être nocif, enfin, trop rappelé de souvenirs ou trop avoir de contact, tout ça. Donc, puis on est ensemble pour quelque chose quand même, c'est un projet, c'est pas venu comme ça non plus.
Clémence, tu es partie l'an dernier en Irlande du Nord avec Erasmus+. Tu as vécu là-bas pendant 3 mois, immersion totale, entre colocation géante et petit boulot. Ta réaction au récit des aventures de Romain?
C'est vrai que tout ce que Romain raconte par rapport à son périple et puis ses péripéties, on va dire que moi aussi j'ai eu des péripéties donc pendant mes découvertes et mes séjours en Irlande. Donc je peux comprendre que du coup son séjour il ait été, je pense, bénéfique pour lui, mais qu'il ait aussi vécu des moments pas faciles pendant son périple.
C'est vrai que ce qui est marquant, c'est que quand on entend Romain, vraiment il revit son voyage, on a l'impression d'être avec lui, c'est hyper vivant. Est-ce que toi il y a un moment en particulier que t'aimes bien te remémorer, que t'aimes bien raconter quand on dit « Ah ouais, t'es partie 3 mois en Irlande », est-ce qu'il y a un moment que t'aimes bien raconter?
Alors c'est compliqué parce que moi j'aime bien tout raconter du début à la fin, mais c'est vrai que si je devais en choisir un seul, ce serait notre week-end donc en Irlande du Nord. En fait, on a, avec nos amis, on était 5, on a loué une voiture et on est allé au Giant Causeway. Le Giant Causeway, c'est des falaises, mais à perte de vue, des paysages vraiment incroyables. On a passé donc tout un week-end à marcher. Et moi, on sait très bien que la marche et moi, je suis pas très sportive, donc du coup, ça a été vraiment difficile. Mais en fait, la marche a été difficile pour arriver jusqu'au sommet, en fait. Et arriver là-bas, on est face à l'océan, on est sur des collines mais qui sont à des centaines de mètres du sol. On a l'impression de voler, le temps s'arrête. On se dit, c'est incroyable en fait. Nous, on est dans notre routine, on connaît certains endroits, on va souvent dans les mêmes endroits. Mais de découvrir des endroits pareils, c'est vrai, en Irlande du Nord, le Giant Causeway, ça a été vraiment incroyable. Pour ceux qui connaissent la série Game of Thrones, c'est là-bas en fait que ça a été tourné. Donc au niveau des paysages, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, C'est vraiment ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est vraiment impressionnant.
T'as l'impression d'être dans la série, quoi.
Oui, c'est ça.
T'attends d'avoir les personnages arrivés.
Les armures, les guerriers, tu le sens, etc. Mais en plus, on avait de la chance, ce jour-là, il a fait mais vraiment beau, il y avait du soleil, pas de pluie. C'était vraiment une journée incroyable et vraiment que des bons souvenirs.
Mais gros, la mémoire courte comme la vie, je te le jure, je suis choqué. Dans des chaînes au cou, nos ancêtres, ils les avaient au pied. Pour après les mêmes choses, une belle pièce, une belle femme, de belles sables. La dougna dans la tête, on sera maître ou esclave. Affranchi ou soumis depuis des années, années. Est-ce qu'on est damné, damné, chaîne de fer au poignet, poignet. T'es esclave, si les médias pensent à ta place, veulent faire passer pour une nonne. Kassounita, Batakash, confond les imams et les prêtres. Les sentiments, les centimètres, je suis qu'un homme sans idole. Le tout puissant est mon maître, ici être ou ne pas être. L'oseille fait tourner la tête. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent reste un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je rappe, parle de toute chose, mais je reste un soumis capiche. Compris, tant que l'enfant du pauvre bouffe moins bien que le chien du riche. Tout ce que je dis sort de mon iris, mon seum ressort que dans mes disques. Les plaies des fouets des colons cicatrisent, mais jamais ne guérissent. La beauté et la jeunesse ne sont que temporaires. Passe de mannequin retraité selon le fuseau horaire. Et tu soumis au mythobie, ornotobie. As-tu gardé de l'autonomie et tu maître de tous tes hobbies? Y'a ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Y'a les hommes forts, les maillons faibles. Monopolo. Ceux qui bougent, ceux qui se plaignent. Immobile, on ne sent pas nos chaînes. Toby, or not. Toby, Monopolo.
Toby, or not Toby de Tiers Monde. On est sur RFI dans Le Monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes tout l'été. Ce morceau, c'est Romain qui nous l'a soufflé, un des deux jeunes qui nous font revivre leur grand voyage aujourd'hui. D'ailleurs, ça lui a sûrement manqué la musique quand il était sur le chemin de Compostelle, puisque n'oubliez pas, comme il nous l'a confié tout à l'heure, il est parti sans téléphone et sans MP3. Et ça, ce n'est pas lui qui l'a décidé, c'est l'une des règles qu'il a acceptées avant de partir. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Romain est parti dans un contexte très particulier, celui d'une marche dite de rupture avec un éducateur proposé à des jeunes en difficulté. C'est en fait un projet mis sur pied depuis 2003 par l'association Seuil en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse et l'aide sociale à l'enfance. Une marche pour se sortir de l'impasse.
J'étais en foyer, il m'avait retrouvé avec un petit bout de cannabis, mais vraiment microscopique. Avoir retrouvé une consommation sur moi dans un lieu protégé par le CEDAS et l'État.
C'était un lieu d'encadrement d'autres jeunes.
C'est ça. Donc c'était encore plus important parce qu'il y avait d'autres jeunes qui pouvaient être amenés à avoir ce type de consommation. Mais je me sentais pas chez moi, donc au final je respectais rien du tout.
Et pourquoi as-tu été placé en foyer ?
Pour mes consommations de cannabis qui étaient nocif pour mon entourage, qui étaient mes frères et sœurs, tout ça, qui pouvaient sentir le cannabis à la maison et voir des personnes défiler. C'était glauque, c'était très glauque.
Pourquoi tu avais commencé le cannabis en troisième?
Mes parents se sont divorcés. Et le cannabis, c'est un doudou, il n'y a pas d'autre terme en fait, ça veut tout dire, un doudou. Et en même temps, j'ai dû plus ou moins me mettre à vendre pour pouvoir me payer mes consommations. Un cercle vicieux, quoi. C'est une descente en enfer. Donc, eux m'ont proposé un voyage de rupture pour...
La protection judiciaire de la jeunesse.
C'est ça. Un voyage de rupture pour pouvoir respirer. Moi qui étais dans mes consommations, et j'ai refusé de manière plutôt violente. Je comprenais pas pourquoi on me proposait un tel voyage. Pour moi, j'allais bien, je comprenais pas. Et puis, j'ai compris quand je me suis pris le mur que ça pouvait être utile pour pouvoir recommencer quelque chose sur des bonnes bases, en tout cas.
Est-ce que tu te souviens de comment la marche t'a été expliquée ?
Je devais partir de chez moi, quoi. Prendre l'air, partir de chez moi. Je comprenais pas. C'est une marche qui a une durée de 3 mois, qui a un parcours de 1800 km. Qui s'effectue avec un éducateur, qui se commence en Espagne.
Et cette marche, c'est pour aller jusqu'où?
Pour aller jusqu'au bout.
Parce qu'en tout cas, tu dis que ça t'a fait réagir assez violemment.
Je comprenais pas. Partir 3 mois, pour moi, c'était pour me tourner les pouces. Ça me tentait pas du tout. Mais c'est vraiment quand j'ai été demandeur et que j'ai compris le pourquoi de l'action, que ça pouvait me donner du recul, que j'ai pu être à même de parcourir aussi un bout de chemin aussi dans ma tête. J'ai été demandeur en juillet et ça s'est mis en place en novembre 2015. Ouais, c'est que quand je me suis pris le mur que j'ai pu comprendre quelles étaient les personnes importantes.
C'était quoi ce mur?
C'était de l'argent que je devais. C'est vis-à-vis des personnes qui me procuraient ces drogues que j'avais des dettes et donc du coup je n'avais aucun moyen de les régler, je pouvais pas travailler, j'étais trop jeune. Et donc du coup c'était un cercle vicieux, j'étais obligé de rester dans ce système de vente illicite pour pouvoir régler d'autres dettes. Enfin, c'était un cercle vicieux. Je suis parti le 6 novembre. Et durant la marche, j'ai eu 2 éducateurs.
Ah bon? Pourquoi?
2 éducateurs. La première, c'était une fille avec qui le courant est très mal passé. Il y a eu des tensions et la marche a bien failli se finir. Mais Paul a décidé d'envoyer un deuxième éducateur qui a été plus distant, ce qui m'a laissé peut-être plus respirer. Enfin, le courant est passé directement et avec qui j'ai fini la marche. J'ai eu de la chance de continuer cette marche. Ouais, parce que ça aurait pu se finir comme ça. Sur un coup d'énervement, ça aurait pu se finir comme ça.
Le Paul dont parle Romain, c'est Paul Dallacroix, le directeur de l'association Seuil qui organise ces marches. Précisons qu'elles se font uniquement sur la base du volontariat. Les ados partent seulement s'ils en ont envie. Et d'ailleurs, ils doivent rédiger une lettre de motivation et esquisser un projet de retour avant de partir. Clémence, toi, tu es partie 3 mois en Irlande du Nord avec Erasmus+. Qu'est-ce que tu as fait là-bas exactement? Tu as travaillé?
Oui, en effet. Donc du coup, j'ai fait un stage pendant les 3 mois. À la base, j'avais choisi un stage dans la restauration.
Le but, c'était d'apprendre l'anglais déjà?
Voilà. En fait, ce que je voulais, c'était améliorer mon anglais. Le souci, c'est qu'avec mes études et mon métier de base, le langage est vraiment trop technique. Donc moi, du coup, ce que je voulais, c'était apprendre vraiment le langage courant, l'anglais courant. Et donc, en fait, ils m'ont proposé un poste donc de serveuse. J'ai commencé dans un café-restaurant. Donc au début j'ai commencé à la plonge parce qu'ils se sont dit il faut que je m'habitue un peu à parler avec mes collègues et après je pourrais aller en salle en tant que serveuse. Donc moi il n'y avait pas de souci. Et sauf que après 3 semaines de stage j'étais toujours à la plonge à faire la vaisselle. Donc du coup je leur ai dit que je souhaitais changer de stage parce que lui il n'était pas du tout, il me convenait pas du tout et je parlais pas anglais. Et du coup j'ai changé d'entreprise et j'ai atterri dans un charity shop. Donc c'est comme la Croix-Rouge, Emmaüs, c'est des petites boutiques très connues en Irlande et en Angleterre aussi. Et donc j'étais vendeuse dans un charity shop qui vendait des jouets et des vêtements pour enfants. Et ça a été, le jour et la nuit avec le précédent travail, c'est-à-dire que je parlais toute la journée avec mes collègues, les clients, les amis qui venaient nous rendre visite. Dès qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas, ils nous répétaient. Donc ça a été vraiment un très bon déclencheur et un très bon stage pour moi, donc pendant 2 mois et demi.
Et ça, c'est une nouveauté du programme Erasmus, parce que traditionnellement, c'est un programme pour étudiants, tel que ça existe depuis 30 ans. Mais cette ouverture à des demandeurs d'emploi, à des sportifs, à des apprentis ou à des jeunes qui veulent faire le service civique, c'est vraiment récent et c'est ce dont toi, tu as bénéficié.
Exactement.
Comment tu l'as financé? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde?
Moi, ça m'a coûté 0. À part faire le dossier, faire un entretien collectif et ensuite un entretien individuel pour montrer la motivation et pourquoi on avait envie de partir à l'étranger. Ensuite, Pôle emploi et notre organisme, c'était l'AFEC Europe à Orléans. C'est eux qui ont tout géré de A à Z, l'hébergement, les stages, parce qu'en fait, ils ont des partenariats donc dans chaque pays. Et en fonction des secteurs d'activité qu'on recherchait pour nos stages, ils nous ont mis sur la piste de ces entreprises-là. Mais nous, on n'avait rien à organiser, juste à dire qu'on était OK, à remplir un dossier et voilà.
Donc ça, il faut le dire haut et fort, Erasmus+, c'est accessible à tous.
Ouais.
Restez avec nous, Clémence et Romain continuent de nous raconter leur voyage initiatique. Le Monde est à nous revient juste après Flash dans 3 petites minutes.
puisqu'on en est aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence.
J'écoute.
Le monde est à nous. Cerise Maréchaux, Alice Milo.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans Le Monde est à nous, l'émission qui chaque dimanche de l'été tend le micro aux jeunes. Et même si vous avez plus de 25 ans, vous avez bien fait de nous rejoindre. Voyager pour grandir, c'est le thème que l'on explore ensemble aujourd'hui. Voir ailleurs si l'on y est, l'expression est pleine de sens car voyager, c'est bien souvent se trouver. C'est en tout cas ce qui unit les deux jeunes de notre émission. Clémence, 23 ans, partie 3 mois en Irlande du Nord avec le programme Erasmus+, et Romain, 18 ans, qui a accompli une randonnée de 1800 km, rien que ça, pendant 3 mois sur le chemin de Compostelle avec l'association Seuil, qui a déjà aidé 200 jeunes à se réinsérer au retour de leur marche. Alors, en route pour l'aventure, extérieure et intérieure, sur RFI.
Saint-Jacques, c'est là. La fin de la Terre, c'est là. Puis après, on est redescendu, direction le sud.
Donc après Saint-Jacques-de-Compostelle, tu as continué à marcher?
Oui.
Jusqu'à?
Jusqu'à Séville. C'est souvent en fait une étape significative d'être arrivé déjà jusqu'à là. Mais il faut continuer pour son chemin personnel. Parce que c'est souvent à Saint-Jacques qu'on commence juste à respirer, à commencer à vraiment cogiter sur des choses importantes. À se libérer, quoi. Vraiment à profiter en plus du chemin. Et j'ai retrouvé des sensations qui étaient proches du bien-être, de l'état que pouvait procurer une drogue, d'euphorie, sur le chemin, juste avec sûrement de l'adrénaline, des trucs naturels du corps, mais un bien-être, être en osmose avec la nature. Je me sentais moi, j'étais bien. Je me sentais aussi bien avec les personnes qui m'entouraient, avec une personne que je pouvais rencontrer, j'étais pas agressif. Souvent on est agressif, une personne vient de parler ou quoi que ce soit, on prend pas forcément le temps d'écouter ou quoi que ce soit, et là, on peut prendre le temps ou pas, et puis c'est à nous de le choisir.
À ton avis, Romain, qu'est-ce qui est vraiment propre au fait de marcher qui fait autant de bien?
De toute façon, quand on marche, indirectement, on va vers quelque part. On pense à quoi? On pense au départ à nos pieds qui marchent. Je dis un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Peut-être on pense à ça au départ. Puis peut-être nos pensées se redirigent vers autre chose. Et puis peut-être petit à petit, on divague dans nos pensées tout en marchant, parce que marcher, en fait, c'est simple. Enfin aussi, on marche, mais il faut penser aussi à respirer, à comment respirer pour pas avoir des points de côté, pour pas s'arrêter tout le temps, pour pas avoir trop mal aux pieds, pour bien faire circuler le sang dans tout le corps. C'est ça, en fait, on est vraiment à l'écoute que de notre corps. C'est prendre soin de soi, c'est important. On met ça de côté souvent, mais c'est très important. Et petit à petit, on se libère, on pense à autre chose, on commence à réfléchir sur notre situation, le pourquoi on en est rendu là, à marcher aujourd'hui. Ça vient tout seul, c'est vraiment en marchant, le cerveau se met en marche tout seul en fait. On a du temps que pour nous, pour réfléchir sur notre personne, sur ce qu'on veut faire plus tard, sur ce qu'on a fait de mal, sur ce qu'on veut peut-être mieux faire après, en rentrant de cette marche. C'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'on va faire en rentrant dans notre vie quotidienne, dans notre train-train habituel, qu'est-ce qu'on veut changer de notre train-train habituel. C'est ça, c'est... On peut aussi divaguer sur plein de choses, au final on peut réfléchir, on peut rêver, on peut faire tout. Je me suis surtout focalisé, je pense, sur ce que je voulais faire, en tout cas quand j'allais rentrer. Parce que mes parents m'ont dit, en gros le deal c'était qu'ils remboursaient, j'allais vers le mieux et eux ils m'aidaient à rembourser. Je me suis directement mis dans cette optique. Et c'est pour ça aussi qu'on avait aussi une relation assez, assez simple avec Bastien. J'avais quand même certains objectifs, même s'il était là pour me les rappeler, des fois fallait qu'il y ait quand même quelqu'un, un adulte quoi, pour m'indiquer le chemin quoi, plus ou moins. Ouais.
Rappelle-moi, de quand à quand as-tu marché?
De novembre 2015 à février 2016. Cette marche-là, ça m'a offert une page blanche, quoi, et je commence à me refaire une sorte de réseau, vu que j'ai commencé à travailler. Là, je commence à faire des stages, je commence à travailler les week-ends, les vacances.
Dans quoi tu travailles?
Je travaille dans le transport 12 heures par jour et 4 jours par semaine. Petit à petit, je commence à donner peut-être une nouvelle image de moi. De quelqu'un qui fait les choses proprement, peut-être. Moi, je sais pas, en tout cas, je le fais à fond, je le fais. Je suis présent. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retours, plutôt des bons retours. Je sors plus, niveau consommation de cannabis, honnêtement, j'ai repris. Ben après, c'est plus la même consommation que j'avais avant. Avant, je l'avais pour me détruire. Et là, c'est vraiment quand un dimanche, j'ai fait ma semaine de travail, et puis avec tout ce qui... Voilà, j'ai fait.
De temps en temps.
Il faut que je reparte, de toute façon, sur le chemin.
Tu veux repartir marcher?
Ah, c'est sûr, c'est sûr, rien n'est sûr, mais c'est ce que j'entrevois pour la fin de mes études. À gauche, je crois. Enfin, j'ai fini premier de ma classe cette année avec 17 de moyenne.
Bravo.
Et bah c'est un bon pas dans mon projet, parce que les deux prochaines années qui vont suivre vont être les plus importantes pour pouvoir continuer après dans la vie. Pour trouver un BTS ou rentrer dans un DUT, j'ai appris que les places étaient encore plus chères, surtout en sortie de bac professionnel, parce qu'on aura des lacunes sur les matières générales et tout ça. Et du coup, il va falloir que... à travailler. En fait, c'est mon copain qui m'a expliqué un peu par où passer pour rejoindre ce petit lac. Et je sens qu'on va un peu tourner en rond à un bon moment avant de le trouver. Oh là là. Mais ça va, il fait beau. On peut aller voir aussi par là. On visite un peu.
Il fait beau et voilà Romain qui, pas à pas, poursuit son chemin, quitte à se perdre un peu, parfois, à visiter le nez au vent. Clémence, toi, tu as passé 3 mois à Derry, en Irlande du Nord, l'an dernier, grâce au programme européen Erasmus+. Comment s'est passé ton retour après une expérience aussi intense?
Alors, le retour, honnêtement, a été très difficile. Moi, je dis que je me suis pris une vraie claque dans la tronche.
Pourquoi ?
C'est-à-dire que, ben en fait, sur place, pendant les 3 mois, j'ai profité, mais à 2000%. Et le souci, c'est que, arrivé à Orléans, donc le 29 avril, je m'en souviendrai toujours, mes parents sont venus me chercher à la gare. Et sur le trajet de la gare à ma maison, il y a peut-être 20 minutes de route. Et je regardais autour de moi, je repassais dans le centre-ville et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait ? J'étais complètement déconnectée, j'avais déjà du mal, alors que je venais juste de mettre un pied en France, j'avais déjà du mal à me réadapter. Donc bon, je me suis dit, bon, c'est le contre-coup, ça va bien se passer, tu vas te réhabituer, ta routine, etc. Et en fait, pas du tout. C'est vrai que ce qui a été compliqué, c'est de reprendre ma vie où je l'avais laissée 3 mois en arrière. Donc c'est-à-dire les doutes sur mon avenir même professionnel, personnel, sur mes envies, ce que j'avais envie de faire, mes objectifs, mes buts dans la vie. Et je me suis retrouvée à regarder autour de moi et me dire, mais non, t'es pas à ta place. Ta place, c'est pas ici. Ta place, elle est en Europe. Elle est quelque part dans le monde. Tu sais pas encore où, mais faut que t'ailles trouver ta place quelque part, en fait.
Et passer ce petit sas d'inquiétude, justement, est-ce que finalement, à moyen terme, ce voyage a été un tremplin pour toi? Parce que on entend bien avec Romain que ce voyage a vraiment changé sa vie. Mmh. Est-ce que toi, finalement, à moyen terme, ça a changé la tienne?
Moi, oui. Et puis même, je dirais, du coup, sur du long terme, parce que... ce qui s'est passé, c'est que, bah, avec toutes ces interrogations, moi, je me suis dit, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Et moi, je me suis dit, faut que je parte voyager, faut que je parte visiter des pays que je connais pas, que j'aille à la rencontre des gens. Du coup, pour partir comme ça, l'aventure, bon, c'est un peu compliqué, mais je me dis, travailler et voyager, c'est ce qui est fait pour moi, en fait.
Je donne avec je le choix.
de Céline Dion sur RFI, c'est le choix musical de Clémence, notre invitée dans Le Monde est à nous, l'émission qui donne la parole aux jeunes chaque dimanche de l'été. Et ce soir, place au voyage et à l'aventure. Toi Clémence, tu as 23 ans, tu es partie 3 mois en Irlande du Nord l'an dernier avec le programme Erasmus+. C'est quoi ton prochain grand voyage ?
Alors, je suis un petit peu froussarde, on va dire, même si l'Irlande, on a beaucoup voyagé, etc., ça m'a quand même... maintenant, j'ai un petit peu plus confiance en moi. Et maintenant, même encore avec mes amis d'Irlande français, on part en week-end ensemble avec nos sacs à dos, des bonnes chaussures, et puis on fait le tour un peu de l'Europe. Là, d'ailleurs, je reviens d'un week-end où, de 3 jours, on est parti en Allemagne, et ensuite, on a pris un bus de nuit pour aller en Pologne. On a fait des kilomètres et des kilomètres, mais c'était vraiment fantastique. Et du coup, moi, à la base, je voulais retourner en Irlande parce que c'est vrai que ça a été vraiment un coup de cœur. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce pays et pour ces Irlandais. Et en fait, maintenant, du coup, j'ai un peu changé ma cible. Et j'aimerais donc traverser l'Atlantique et du coup aller au Canada. J'aimerais bien. Donc, j'ai entrepris les démarches pour pouvoir obtenir le visa. Et donc du coup, comme c'est assez long au niveau des, il faut patienter plusieurs mois pour avoir une réponse.
Pour travailler là-bas alors ?
Pour travailler là-bas, donc en fait le visa c'est le VVT, donc c'est en fait
le permis vacances travail.
Voilà, c'est ça, le permis vacances travail.
Mais tu ferais quoi comme travail là-bas ?
Bah en fait c'est ouvert en fait, donc on peut trouver des jobs, on va dire, dans mon secteur, ou vendeuse, serveuse, enfin voilà, histoire que on est quand même, on puisse s'assumer financièrement sur place et du coup voyager, parce que le but aussi c'est de voyager, et si je vais au Canada, j'aimerais bien voyager dans tout le Canada, et c'est vrai que c'est tellement immense que voilà, faut quand même avoir des sous pour pouvoir voyager un minimum. Donc du coup j'ai pas de job précis pour l'instant. C'est le porte-à-porte, et puis voilà, le porte-à-porte, un peu d'argent, et puis le sac à dos, et on repart en voyage.
Entre Paris et la Havane avec les sœurs jumelles IBI sur RFI.
Est-ce que le monde est à nous ?
Le monde est à nous.
Il n'y a personne d'autre, mais qu'à nous, à nous seuls.
L'expert.
Le monde est à nous, voyager pour grandir. C'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui sur RFI. Et comme chaque dimanche, les dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre expert. Alors on vous explique rapidement le concept. Un des deux jeunes de l'émission interview un adulte de son choix qui l'inspire ou qui l'admire pour lui demander des conseils. Aujourd'hui, c'est Clémence, notre jeune baroudeuse, qui rencontre l'explorateur Christian Clos avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous, Christian Clos, vous êtes carrément un expert de l'extrême. Carrure musclée, pantalon multipoche, toujours entre deux voyages. Votre défi du moment, c'est d'explorer les quatre zones climatiques les plus difficiles au monde pour les humains. Rien que ça. Et Clémence, tu as un paquet de questions à lui poser.
Oui, en effet. Je me suis intéressée au projet de Christian. Et c'est vrai que ma première question, c'est quel a été le déclencheur, en fait, de votre envie de quitter votre travail ici et de partir dans des endroits de l'extrême?
Moi, c'est un peu le contraire de vous, c'est que je quitte pas mon travail en partant, c'est mon travail de partir. Depuis que je suis petit, enfant, j'ai toujours eu envie de voyager. Ça a commencé très tôt, puisqu'à 4 ans, je partais déjà tout seul dans la forêt pour voir ce qui s'y passait. Donc à 16 ans, j'ai pris mes premiers billets d'avion pour partir sans le dire à mes parents. Donc je ne recommande pas à tout le monde de le faire, mais j'avais ce besoin d'aller découvrir le monde. Ça a toujours été là, et au fil de mes découvertes, et je pense que c'est le cas souvent des personnes qui voyagent de plus en plus, c'est qu'on constate que on peut plus seulement voyager pour soi, pour se faire plaisir ou pour découvrir son propre regard sur les choses. Il faut aussi commencer à questionner les éléments qu'on découvre, les endroits où on va, les personnes qu'on rencontre, et se poser finalement la question de ce que nous sommes, nous humains, sur cette planète, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la planète en elle-même. Et c'était le cheminement que j'ai suivi pour en faire depuis maintenant environ une vingtaine d'années mon métier, à savoir d'aller dans les différents lieux de la planète, qu'ils soient extrêmes ou non, faire des études scientifiques de différents niveaux, qui puissent être glaciologiques, entomologiques, humanistes, sociales, ou maintenant sur la cognition humaine, à savoir comment l'humain s'adapte à ces conditions les plus particulières sur notre planète.
D'accord. Et du coup, quel est l'objectif scientifique
L'objectif, alors, j'aimerais comprendre comment un humain est capable aujourd'hui d'évoluer dans un monde en évolution. Je pense que on peut plus considérer le monde comme on l'a peut-être considéré il y a quelques années, comme étant linéaire, où tout va fonctionner toujours de la même manière, toujours bien, où on a un métier, on rentre à 20 ans, on en sort à 60. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde, et vous rentrez en plein dedans, hein, où on ne sait pas ce que sera demain. Mmh. Où le métier qu'on fera dans une année, ce ne sera pas le même que dans 10 ans, assurément, où l'endroit où on vit aujourd'hui ne sera pas le même, que ce soit parce que nous, on s'est déplacé, ou parce que, tout simplement, l'endroit a changé, climatiquement, intellectuellement, éthologiquement. Donc finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre dans un monde en constante évolution? L'humain a prouvé durant son histoire qu'il était capable de s'adapter à tout, c'est vrai. Mais la chose qui change aujourd'hui, c'est que les choses changent de plus en plus vite, de plus en plus prégnantes. Et finalement, j'ai envie de comprendre ce que l'humain est dans ce monde de changement. Et c'est mon étude aujourd'hui que d'aller de me servir finalement des expéditions au milieu extrême comme des cas d'école de stress, pour essayer de comprendre ce que veut dire un stress pour un humain. Et les expériences qu'on vit, et je crois que vous avez fait ça en partant en Irlande, elles nous construisent, elles nous définissent, et si on est capable de les prendre comme une expérience extraordinaire, quelle que soit l'expérience, elle va devenir positive.
Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être un ou deux exemples de vos voyages? Là, par exemple, vous revenez d'où et vous partez où? Parce que vous êtes toujours entre deux.
Là, je viens de finir une grosse expédition qui m'a fait traverser pendant 4 fois 30 jours successivement les 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Donc l'endroit le plus chaud, sec du monde, l'endroit le plus froid, humide, et ainsi de suite.
Alors c'était où?
Alors c'était dans le désert du Dashtelout, en Iran, l'endroit le plus chaud aujourd'hui, plus 60 degrés avec 2% d'humidité. On parle là à l'ombre et de l'air. Hein, donc en plein soleil, c'est encore autre chose. La Sibérie orientale, dans un endroit qui s'appelle le Mont Berkoyansk, moins 60 degrés et 60% d'humidité, la forêt amazonienne avec cette fois 40 degrés et 40% d'humidité, et puis les canaux marins de Patagonie, l'endroit humide, froid, le plus particulier, le plus versatile du monde, puisqu'on ne sait jamais ce que l'heure suivante nous offrira comme météo. Quatre milieux qui sont certes climatiquement compliqués, mais qui sont surtout des vrais défis en tant qu'humain, c'est-à-dire que quelle que soit son expérience, on n'a jamais vécu à des conditions aussi particulières. J'étais tout seul avec une tente, un chariot dans le désert, une poulka dans les parties glaciaires, avec un sac à dos en forêt, sans aucun moyen de communication, pour justement être le plus proche possible d'une personne qui vivrait une situation de crise dans laquelle on ne peut pas juste appuyer sur un bouton pour arrêter l'expérience.
Et dans votre sac, vous avez quand même du matériel d'études assez
alors,
précis.
Alors j'ai une quinzaine de kilos de matériel d'études qui me permet d'étudier non seulement le système physiologique humain, mais aussi la cognition humaine, à savoir le développement du cerveau de l'humain face à ces situations. On fait aussi entre les expéditions des travaux en laboratoire avec des IRM par exemple qu'on peut pas transporter sur le terrain pour finalement cartographier le cerveau, cartographier le corps et voir comment il évolue avant, après et durant les périodes de 30 jours et essayer d'extirper un certain nombre de connaissances sur finalement que se passe-t-il réellement et non pas empiriquement, hein, cette idée qu'on a de dire il se passe ci ou ça, mais finalement qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est ce qu'on étudie avec des choses très objectives.
Étant un peu curieuse, je voulais savoir quel a été le moment le plus difficile des quatre expéditions de l'extrême. Est-ce qu'il y en a eu un particulièrement plus que les autres? Et est-ce que le fait que ça a été aussi difficile, est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce que je fais là?
Alors moi, ça fait quand même 20 ans que je fais des expéditions de manière professionnelle, plus de 30 ans que je fais des voyages aventuriers, on va dire. Cette question-là, elle se pose tout le temps. Il y a peu ou pas de voyages que j'ai fait, compte tenu que je vais toujours dans des conditions un peu complexes, un peu difficiles, très isolées, où je me suis pas dit « mais pourquoi ?» Ça, c'est récurrent et quelque part, c'est assez sain, je crois. C'est-à-dire que il faut jamais oublier qu'on vit dans une société et qu'on vit avec d'autres personnes. Et finalement, si je peux partir sans jamais me poser la question de ce que je suis en tant qu'humain quand je suis dans ma société, avec mes amis, avec mes parents, et que je peux balayer ça comme si de rien n'était, je crois que je raterai toute une partie de ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai besoin aussi de savoir que j'ai une accroche à un lieu, même si je me dis pas, moi j'habite ici, c'est pas tellement grave, je me considère comme un citoyen du monde. Le fait de se retrouver tout seul, au milieu de nulle part, dans des conditions très difficiles, avec tout ce que ça peut impliquer comme peur, comme stress, comme doute, il est important de savoir qu'on a des endroits où des gens sont là et qu'on pourra y revenir un jour. Et c'est toute la différence d'ailleurs entre le voyageur et la personne qui vit quelque part. Même quand on va des fois une année quelque part, on reste pour moi un passant, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a un endroit où on peut revenir. Et c'est dans mes expéditions important et c'est aussi ce qui fait la différence peut-être entre une personne qui partirait juste quelques mois en voyage et qui penserait avoir compris complètement un système dans lequel il est. C'est très relatif. On ne peut pas comprendre totalement un endroit si on n'est fait que passer dans cet endroit. Et ça, c'est important pour moi de garder toujours ce recul et de savoir qui je suis par rapport au lieu où je suis et de garder ce regard d'explorateur que j'invite tout le monde à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans des endroits extrêmes. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir regarder partout, tout le temps, avec un regard d'ouverture et de compréhension. Et ça, je peux le faire aussi bien à Paris, dans le sud de la France, qu'au bout du monde, en Ouganda, en Éthiopie, au Canada. Parce que finalement, tout ce qui m'entoure, c'est exploratoirement parlant intéressant.
Tu as une autre D'accord. question, Clémence, je crois.
Oui. Du coup, comment vous transmettez vos voyages aux jeunes?
Alors ça, c'est l'autre aspect d'exploration, c'est important de raconter, et y a plein de manières. Alors moi, j'essaye de le faire le plus possible, j'écris des livres parfois, je fais des films parfois, même si ça c'est plus rare parce que c'est compliqué dans mes expéditions de filmer, puisque souvent je suis dans des conditions assez difficiles. Il y a tout l'aspect de se servir aujourd'hui des réseaux sociaux, d'internet, même si il n'est pas toujours facile de suivre, c'est important de communiquer, de raconter. Moi j'écris une collection de bandes dessinées aussi, qui me permet de raconter non pas forcément mes expéditions, mais de raconter les expéditions d'autres personnes, parce que là encore c'est important de savoir que on n'est jamais les premiers en rien aujourd'hui. On est des gens qui se servons de connaissances qui ont déjà été acquises par d'autres pour pouvoir faire le pas suivant. Et ben avant de pouvoir faire le pas suivant, il faut déjà savoir d'où doit partir le dernier pas. Et c'est important pour moi de raconter aussi l'histoire des explorateurs et des expéditions du passé. Donc tout ça, c'est ma manière de communiquer. Il y a évidemment aussi les publications scientifiques qui sont déjà réservées à un public un peu plus précis. Mais surtout, je crois qu'il faut toujours avoir envie de raconter et de se poser la question de finalement, pourquoi et à qui je raconte une histoire. Ça me sert à rien de parler spécifiquement d'une dendrite qui naît au milieu d'un neurone à un public général, parce que c'est pas ça qui les touche. Par contre, de raconter que à tout moment de la vie, qu'on ait 100 ans ou 2 ans, on peut continuer à créer du savoir dans sa tête, qu'il n'y a pas de limite, que jamais tout ce qu'on peut nous dire de ça c'est terminé, c'est une fois que t'as fait ça c'est fini, ton cerveau il évolue plus, tout ça c'est faux. Qu'on doit toujours être dans la curiosité, la construction, l'envie, le désir, la compréhension, ça c'est quelque chose qu'il faut dire à tout le monde, parce que c'est ce qui nous définit.
Merci Christian Claude d'être venu jusqu'à nous des zones les plus extrêmes pour partager votre expérience. On peut retrouver toutes vos aventures dans Moi Christian Explorateur aux éditions Glénat Jeunesse. Merci aussi à toi Clémence d'avoir fait le chemin depuis Orléans. On te souhaite bonne route pour tes voyages à venir. Merci enfin à Jérémy Bessé pour la réalisation de cette émission. Le Monde est à nous, c'est aussi sur RFI.fr ainsi que nos réseaux sociaux. On se retrouve dimanche prochain, même heure, pour parler de la différence avec Pascaline, 20 ans, qui a surmonté son handicap, et Tom, 24 ans, qui a accepté sa transidentité. L'été approche de la fin, mais le voyage continue toute l'année. Profitez-en bien jusqu'au bout. Salut à tous.
À la semaine prochaine.